Attention, vous êtes arrivés dans les monts de demain, une chronique du parc naturel régional pour parler d'urgence écologique et climatique, mais aussi, surtout, de transition, pour imaginer ensemble les monts de demain.
Les savoir-faire textiles habillent les castagnades 2024. C'est le fil rouge des rencontres des monts de demain, organisées par le parc naturel régional des monts d'Ardèche, qui continuent de tisser leurs thématiques autour de nos savoir-faire et expérimentations locales qui inventent les solutions de demain. Direction donc Saint-Pierreville, où le temps des castagnades nous entremêle avec les acteurs de la filière textile locale à l'occasion d'une rencontre-conférence avec un médiateur culturel sur le lin. Un regard croisé donc entre filière textile d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Bonjour, moi je m'appelle Alain Camilleri et j'ai un titre très pompeux, celui de médiateur culturel du lin. En gros, mon devoir, et c'est un devoir très accepté, c'est de faire connaître le lin le mieux possible au plus de gens possible. Et c'était la raison pour laquelle je suis venu à ce rendez-vous aujourd'hui.
Donc vous avez aussi écrit un livre, Le lin, fibre de civilisation. Historiquement, ce lin a une relation particulière depuis des centaines d'années, des générations. Est-ce que vous avez une anecdote, comme vous nous avez partagé tout à l'heure lors de la conférence, qui montre le lien avec cette fibre naturelle?
Alors effectivement, ce livre dévoile l'aspect caché souvent de l'histoire du lin, qui est une fibre millénaire qui était déjà utilisée au néolithique 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et si je devais retenir une seule histoire, une seule petite histoire, je choisirais celle de cet interdit qui est prononcé dans la Bible et qui s'appelle le Sha'atnez, et qui nous indique que dès l'époque des temps bibliques, le lin était un sujet à part entière. En gros, cet interdit, c'est de ne plus mélanger la fibre de laine avec la fibre de lin, en somme l'animal et le végétal. Et la raison qui est suggérée, donnée dans la Bible, c'est de nous faire remonter à Caïn et Abel. Caïn, qui est le premier né du couple originel et qui est un agriculteur qui cultive le lin, et Abel qui est le frère un peu rebelle qui lui s'occupe de son troupeau et bouge beaucoup. Lorsque le meurtre du premier par le second a eu lieu, on a décidé que la cohabitation entre laine et lin n'était plus jamais possible. Mais en tout cas, c'est un interdit qui est toujours d'actualité. Chez les juifs orthodoxes, on ne mélange pas l'une et l'autre fibre.
Donc il y a un lien historique, un lien sacré avec cette fibre naturelle. Aujourd'hui, elle a à nouveau une image, une demande de nouveaux usages pour sa durabilité. Est-ce que techniquement, vous pouvez nous expliquer quel lien elle a avec l'homme dans sa transformation? Il y a 10 opérations de transformation et on doit être très à l'écoute de cette fibre naturelle aujourd'hui.
C'est exactement le mot que vous venez d'employer, être à l'écoute, être sensible à la plante. C'est le travail de l'agriculteur et du tailleur, celui qui va faire la première transformation mécanique du lin. Et c'est vrai que lorsque l'on voit une chemise en lin ou des draps en lin, on n'a pas en tête que la fibre qu'on utilise a été si souvent transformée. Quand on passe de la plante au tissu, il y a effectivement 10 opérations de transformation, dont la plus sensible peut-être est le rouissage. Lorsque la plante est déposée au sol, elle va rester au sol pendant 2 mois, et sous l'action de la pluie, de la rosée, du soleil, de la chaleur, les fibres vont apparaître, les fibres textiles vont apparaître, et le climat va dissoudre la pectine, qui est le ciment végétal qui unit les fibres textiles de lin entre elles. Ce passage, ce moment est primordial dans la qualité du lin, et ce n'est pas une machine qui décide quand c'est bon, c'est l'homme qui le fait.
La filière textile a dessiné pendant des générations le paysage de nos vallées ardéchoises. De fil en aiguille, de nouveaux acteurs économiques se réapproprient ces savoir-faire dans une volonté de valoriser un héritage industriel local, source d'innovation durable et éco-responsable.
Alors bonjour, je suis Élise Biard, donc je travaille chez Ardelaine depuis un an et je suis en charge de la coordination des nouveaux produits et de la recherche et du développement.
Qu'est-ce qu'Ardelaine ?
Ardelaine, c'est une SCOP, donc une société coopérative implantée sur le territoire ardéchois, valentinois et dans la Loire à Charlieu, et qui travaille la matière laine sous plusieurs formes, notamment dans la literie, l'habillement. Et voilà.
Un héritage, hein, puisque Ardelaine, c'est un héritage industriel qui a été, et vous avez repris donc, cette industrie en vous formant en SCOP, c'est ça ?
C'est ça, donc c'est d'abord l'histoire d'une filature qui a été à reconstruire. Enfin, c'est un projet d'un groupe de personnes qui a essayé de reconstruire une filature qui était en train de dépérir et de s'effondrer même. Donc c'est la reconstruction d'un bâtiment et puis ensuite des recherches autour de la matière laine qui était un matériau qui avait été mis de côté et une revalorisation du coup de cette matière.
Donc vous travaillez vraiment pour sensibiliser aussi sur les enjeux de la fabrication de votre laine dans son entièreté, en travaillant avec notamment des éleveurs locaux. Il y a une envie de s'approprier ce cycle de fabrication au sein des consommateurs de votre clientèle ?
Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est que tout le monde comprenne un peu les enjeux de ce que c'est que d'avoir, par exemple, un oreiller, une couette ou un vêtement en laine, et de comprendre les étapes et ce que ça engage en termes de personnes et de territoires. Pour nous, la durabilité du vêtement, elle est très importante. L'idée, c'est de partir sur un produit qui va durer dans le temps, avec donc des savoir-faire et des techniques qui nous ont été transmises. On a un service, par exemple, de réparation qui permet qui est un savoir-faire bien particulier et qui permet justement d'accompagner l'objet au-delà de l'achat et de l'instant T et d'accompagner nos consommateurs et consommatrices. Et ça, c'est un savoir-faire aussi qui est important et qui encourage les gens à prendre soin de leurs vêtements. Et nous, on a envie aussi de créer un lien affectif avec le vêtement. L'idée, c'est de présenter comment on conçoit un vêtement ou un produit pour ensuite qu'il y ait une forme d'attache, un affect qui soit créé avec l'objet. Et du coup, quand on connaît l'histoire d'un objet, qui l'a créé, il y a de l'affect et on a plus envie d'en prendre soin.
Et en plus de cet affect que vous expliquez au sein de votre processus de création, de transformation, vous êtes aussi un terrain d'expérimentation avec la laine Mérinos, par exemple, qui est un de vos nouveaux produits. Avant, il n'y en avait pas de la laine Mérinos sur Ardelaine ou dans cette filière de la laine ?
Alors, la laine Mérinos locale, non. Là, on travaille justement sur cette nouvelle gamme de produits qui est avec des éleveurs et des éleveuses qui se battent pour réinsérer le Mérinos local. Et l'idée, c'est justement de travailler sur une fibre qui va apporter de la douceur et une autre utilisation que la fibre qu'on travaille déjà, la fibre de laine qu'on travaille déjà un peu plus grossière, pour proposer une autre gamme de produits plus possible de porter plus proche de la peau, avec des esthétiques différentes parce que ce fil va être plus fin. Et donc c'est une autre proposition.
Voilà. Et c'est possible de répondre à cette demande, d'innover tout en restant responsable et je dirais même éco-responsable.
Je pense que oui, c'est même l'enjeu actuel de la filière textile. Et Ardelaine a toujours, en fait, de base dans son projet, porté cette notion d'éco-responsabilité en travaillant justement en circuit court et local. Et en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller chercher avec les innovations qui sont multiples et vraiment variées, d'aller chercher... par exemple, dans les teintures, dans les apprêts, des manières de traiter cette matière mécaniquement ou avec des matériaux qui sont moins polluants, qui utilisent moins d'eau, qui ne comportent pas de métaux lourds. Et, par exemple, à Ardelaine, on utilise des teintures naturelles, on travaille avec la couleur de la laine telle qu'elle nous est donnée, par exemple, avec des races qui ont de la laine noire, de la laine blanche, voilà, et en faisant des mélanges. C'est là-dedans qu'on va devoir aller chercher L'innovation et la créativité, elle part aussi de la contrainte.
Moi, je m'appelle Réginald de Rioux. J'ai un moulinage de soie à Estramianou, sur la commune de Beauvaine. Je suis la quatrième génération. J'ai repris le moulinage en 2006 avec ma femme, Virginie, à la suite de mes parents, Paul et François Rioux. Nous fabriquons de la soie naturelle. Nous moulinons, pardon, de la soie naturelle. Et nous faisons un petit peu de synthétique, 10% de synthétique et 80% de soie. Et on fait aussi des fibres naturelles en laine et soie.
Donc vous travaillez avec les acteurs locaux, notamment des entreprises comme Art de Laine. Vous êtes amené à coopérer facilement avec eux sur le territoire ?
Oui, on a développé leur fil à coudre en soie. Mais on travaille aussi avec des entreprises de luxe qui nous permettent de tenir. Notre plus gros volume, c'est le luxe. Ça, ça nous permet d'avoir un roulement, un fond qui nous permet de faire travailler. On est en tout 4 personnes dans l'entreprise.
Et donc vous êtes dans un moulinage que vous avez hérité de vos parents. Qu'est-ce qui a évolué dans la manière de vivre ce moulinage, de travailler au sein de ce moulinage par rapport à l'héritage industriel qu'on a connu? Est-ce que vous avez gardé des machines? Comment vous êtes adapté mécaniquement?
On a été obligé de changer certaines machines. Bien sûr, il faut toujours évoluer, s'adapter, trouver de nouveaux marchés. On a trouvé des marchés pas que dans l'habillement, aussi pour le fil de soie, mais en pêche, le fil de pêche, pardon. Voilà, ça c'est un marché qu'on a développé. Dans le domaine aussi des filtres en soie qui permettent de filtrer beaucoup plus naturellement et beaucoup plus finement.
Alors, je m'appelle Alec Billon-Blouin, je travaille dans le textile depuis maintenant 6-7 ans et je développe ce projet d'ortie textile donc, qui s'appelle Copri. Copri, ça veut dire ortie en macédonien parce que dans l'équipe on a quelqu'un qui est d'origine macédonienne. Donc ce projet-là, Copri, a commencé il y a 4 ans sur une terrasse de notre ferme en Ardèche, a été créé en société il y a 1 an et demi. Et donc là, voilà, on est en pleine recherche et développement pour aboutir sur une des plus belles fibres, je l'espère, textiles naturelles.
Et en Ardèche, on en trouve pas mal, des orties ?
Alors figurez-vous que oui et non. Ça a été un peu là notre donc moi je viens du sud, d'à côté d'Avignon, donc pour moi l'Ardèche était un pays qui était assez pluvieux et assez irrigué. Quand on va en Bretagne, on se rend compte que pas tant que ça finalement en comparaison. Et donc nous on a vraiment notre laboratoire en Ardèche qui va donc de parcelles test. Mais forcément, quand vous avez une agriculture en terrasse, c'est compliqué de faire des hectares de quelque chose. Quand on fait du textile, il faut faire des hectares. Si vous faites de la soie, vous devez avoir des hectares de mûrier. Si vous faites du lin, vous devez avoir des hectares de lin. Pareil pour le chanvre. L'ortie, c'est pareil dans l'idée, sauf qu'on va avoir une agriculture qui ne va pas être en grande culture. Donc on va pouvoir faire la lisière des champs, des choses comme ça. Donc si vous voulez, nous, c'est vraiment la partie de laboratoire. Et puis après, toute la partie aussi où on va avoir de l'eau, qu'on va pouvoir retraiter, où on va avoir tout ce savoir-faire aussi autour du moulinage, qui est important pour embellir les fils, et toute l'historique ardéchoise. Nous, ça nous tenait à cœur de faire ce projet en Ardèche, parce que déjà, on a une famille qui vient d'Ardèche, qui est descendue dans la vallée du Rhône, quand il a fallu, on va dire... aller chercher un peu plus d'argent, parce que c'est vrai que l'agriculture subsidiaire ne leur suffisait pas à l'époque. Et donc on a vraiment cette volonté de revaloriser ce patrimoine, etc. Mais c'est quand même compliqué pour nous d'imaginer un développement industriel, je parle bien sur la partie agricole, donc sur des hectares de plantés, sur un territoire comme le nôtre. En revanche, la transformation, le rouissage en eau, etc. va rester sur ce territoire-là, du moins on l'espère, dans les prochaines années.
Et une dernière question plus personnelle, vous en tant que on va dire, jeune entrepreneur, vous trouvez une cohérence d'avoir un travail qui fait sens dans son cycle durable, dans son éco-responsabilité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous animait avant de vous lancer dans cette filière-là?
Alors oui, totalement. Moi, à la base, j'avais une marque de vêtements, et donc en remontant la filière, on se rend compte qu'aucun des tissus qu'on imprime vient de France, on se rend compte qu'aucun des fils qu'on achète vient d'une fibre qui vient de France, etc. Donc c'est parti de ça. Ça m'a fait penser à quelque chose aussi, mais par rapport au territoire, on a quand même un territoire, pour le territoire des choix, qui est dans ceux qui sont plus propices à l'industrialisation dans les années à venir par des rapports de France Industrie. Donc il y a quand même quelque chose qu'on n'est pas reculé, on est très dans l'actualité de la chose en Ardèche, notamment avec les nouveaux modèles économiques que peuvent avoir les scopes, etc. Mais aussi tout ce volet, effectivement, de faire des choses avec ce qu'on a autour de nous. Et c'est vrai qu'on est parti de ça, nous, sur l'ortie, parce qu'on avait des orties en Ardèche. Malheureusement, c'est vrai qu'après, ça va être une notion de quantité. Et en fait, on trouve pas mal d'orties de petits bosquets. Et quand on allait voir le bord de la Saône et du Rhône, qui était souvent inondé, on trouvait des hectares d'orties. Donc il faut réfléchir intelligemment, faire le plus proche possible et le plus circulaire possible, mais faire, c'est ça le plus important, et faire chez nous.
Donc l'Ardèche, un terrain d'expérimentation adapté pour correspondre à vos valeurs et à votre éthique de ce que vous faites et de ce que vous voulez développer dans votre filière.
Totalement. Notre slogan, c'est « Paysan is the new fashion ». Donc ça montre bien l'idée de revenir à ce monde paysan et non pas que agricole, parce qu'on peut avoir des cultures intensives quand même dans l'agricole, etc. Le passé nous montre que ça a été fait dans ce territoire, en Ardèche, le travail du moulinage, le travail de la laine, etc. Et le futur, avec des perspectives comme peuvent nous présenter France Industrie, avec ce rapport qui nous montre que le territoire ardéchois est propice à l'industrialisation, est aussi un bon signe pour le futur. Alors qu'est-ce qui nous manque ? Peut-être du financement gratuit, mais ça n'existe pas.
Pour terminer ce regard croisé, j'ai demandé à Alain son avis sur cette nouvelle façon économique et écologique d'entreprendre sur nos territoires et de repenser le cycle de fabrication de nos fibres naturelles.
Et que pensez-vous de ces nouvelles entreprises qui commencent à naître, pas vraiment dans la région du nord de la France, mais aussi en Ardèche, et qui repensent cette industrie des fibres naturelles ? Est-ce que pour vous, ça a un avenir dans la consommation de nos textiles ?
Je pense que ça a un avenir total, parce qu'une fois de plus, on s'adresse à l'attente du consommateur. Quand on a répondu à cette question-là, on a du mal à se tromper. En tout cas essentiellement. Après, il faut mettre en place les bons moyens pour arriver à obtenir la bonne fibre et le bon traitement. Mais on est face à un souci d'éco-responsabilité du consommateur qui fait que ces fibres naturelles sont naturellement séduisantes. Alors il se trouve que pour le lin, on a un label qui s'appelle European Flax et qui détermine, c'est un contrat passé entre les agriculteurs et la Fédération du lin pour que les champs de lin soient réalisés sans irrigation, sans intrants, que la transformation du lin soit à 100% mécanique et que toutes les parties du lin soient utilisables. C'est des critères qu'on retrouve dans le lin, mais qu'on retrouve aussi dans les fibres qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la laine et l'ortie.
Une cohérence dans sa totalité.
Exactement.
Merci beaucoup, Alain.
Merci à vous.
C'était votre chronique, Les Monts de Demain.